Bonjour à tous, bonjour à chacun. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous depuis jeudi soir, de découvrir cette belle communauté. Alors là, je vois beaucoup de visages que je n'avais pas encore vus. Et ça fait très plaisir de voir une communauté vivante. J'ai été, pas surpris, ça serait faux de dire que j'ai été surpris de découvrir une communauté vivante. Évidemment que vous êtes vivant, mais très heureux quand même de vous rencontrer et de voir une église qui resplendit, qui impacte la cité, qui est présente, qui loue le Seigneur, qui désire grandir. Et voilà, je suis très reconnaissant de cette rencontre avec vous. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Farelli, je suis le pasteur de l'église baptiste de Compiègne, au nord de Paris, à une heure au nord de Paris, un petit peu, donc c'est le Grand Nord. Mais franchement, il fait froid ici aussi. Hein. J'étais un peu déçu, hein. Franchement. Hein. En tout cas, je vous apporte les salutations de cette église, de cette communauté de Compiègne. C'est une communauté sœur au sein de la Fédération des Églises Baptistes que je sers également en tant que président depuis mai dernier. Et voilà, je suis très heureux encore une fois, de pouvoir être ici au milieu de vous et de pouvoir vous servir à travers l'enseignement et la prédication ce matin. Alors, on a parlé de la thématique de la communauté pendant plusieurs soirs, trois soirs, et puis je vais continuer ce matin à vous parler de cela, de cette notion de communauté chrétienne centrée sur le Christ, une communauté qui est une famille. C'est ce que je disais le premier soir, et ça a des implications profondes pour notre vie de foi et notre vie communautaire, que d'être une famille, une grande famille. Cette communauté, elle doit être centrée sur le Christ. Et puis hier, on parlait d'apprendre à discerner ce qui est premier, les opinions premières dans la vie de la communauté, ce qui est secondaire et ce qui mérite qu'on apprenne à parler, à se traiter correctement les uns les autres, quand on est d'avis différents. Et aujourd'hui, je vais parler de la communauté comme un engagement. Ce matin, cette série d'enseignements donc autour de la notion de communauté, j'aimerais en parler comme un lieu d'engagement, comme un lieu de service. La communauté chrétienne, c'est une famille, oui, un corps qui a besoin d'être sans cesse édifié, de grandir, de se rapprocher du Seigneur, donc de grandir à la fois en maturité spirituelle et aussi en croissance numérique. Bien sûr, on a ce désir de continuer de rayonner de Christ autour de nous et de faire venir des gens à Christ, donc de grandir dans ce sens-là aussi. Mais pour ce faire, bien sûr, la communauté a besoin de l'action de Dieu, de son œuvre et de chacun de vous. C'est Dieu qui agit, mais il se sert de vous pour agir. Il veut que les membres de la communauté chrétienne soient des membres engagés, des membres au service. Et bien sûr, cette notion d'engagement, elle est plutôt mise à mal aujourd'hui. C'est compliqué, l'engagement, dans notre culture. Il y a une vraie réticence, globalement, à l'engagement. Parce que s'engager, pour beaucoup, c'est synonyme de perte de liberté, n'est-ce pas ? Quand on signe un contrat avec un opérateur de téléphonie mobile, on signe un contrat pendant 2 ans, et pendant 2 ans, on est bloqué. Et on pense que l'engagement chrétien, c'est aussi un petit peu comme ça. On se bloque, on se restreint, on est engagé, donc on est coincé. Pour le mariage, c'est pareil. Beaucoup se disent, une fois que je suis marié, je suis bloqué, je suis coincé. Alors j'hésite. Et puis, on le sait, la mode est au fait de se placer soi, de placer ses besoins, ses intérêts, souvent au-dessus de ceux des autres. On a vu tellement de gens s'oublier dans le service. Alors on se dit qu'on va réfléchir à deux fois quand même avant de s'engager dans un service particulier. Il ne faudrait quand même pas que cet engagement m'empêche de prendre soin de moi, de m'épanouir. Et puis une autre réticence vis-à-vis de l'engagement, me semble-t-il, c'est que nous sommes dans une véritable culture du zapping. Je veux bien m'engager, mais surtout, je veux garder la possibilité de changer ou d'arrêter quand j'en ressens le besoin, quand j'ai plus envie. Donc OK pour un engagement ponctuel, ça c'est bon, pour un service rendu de temps en temps, Mais un engagement continu, c'est quand même plus compliqué pour moi. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cela. En tout cas, il me semble qu'au niveau de la société, il y a là quelque chose qui est ressenti fortement. Alors le souci, bien sûr, c'est que la communauté chrétienne ne peut pas fonctionner comme cela. Elle a besoin que chacun se sente concerné. Elle a besoin qu'on se retrousse les manches. Alors comment faire? Comment m'engager? Où m'engager? Comment savoir où je suis appelé à servir? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ce sera bien reçu? Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est des questions que j'aimerais que l'on se pose ce matin pour nous guider dans cette réflexion, cette méditation. Et je vous invite à lire ensemble le chapitre 12 de l'épître, le premier épître de Paul aux Corinthiens, justement pour nous accompagner tout au long de cette réflexion et de cette méditation. Et le texte va s'afficher. Paul dit: Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. En effet, comme le corps est un tout, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc. Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je m'arrête là dans la lecture de ce long passage. Je ne vais pas tout interpréter avec vous, évidemment, mais quand même, nous allons prendre un temps ensemble pour étudier et comprendre ce que Paul veut dire, veut vous dire ce matin en tant que communauté ici à Nîmes. Je vous invite à prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Tu t'adresses à nous. Tu n'es pas un Dieu lointain et encore moins un Dieu silencieux. Tu es un Dieu présent au milieu de nous. Et un Dieu qui nous parle, un Dieu qui communique, un Dieu qui se révèle. Et ce matin, ma prière, tout simplement, c'est que nous soyons un peuple qui écoute. Un peuple qui est attentif à ta parole. Qui désire la recevoir, qui désire être transformé par elle. Grandir en toi. Nous avons besoin de ton esprit pour cela, nous avons besoin de ton attention. Mais Seigneur, agis puissamment au milieu de nous, apporte ta parole, puisque nous en avons besoin, parle-nous. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Bien, alors dans ce passage, je vais faire très vite, hein, mais dans ce passage, plusieurs éléments extrêmement importants sur l'engagement quand même, dans la communauté peuvent être relevés. Je vais en mentionner quelques-uns rapidement. Paul, tout d'abord, rappelle au verset 13 que chaque chrétien a reçu l'Esprit Saint. Chaque chrétien a reçu l'Esprit Saint. À partir du moment que vous êtes chrétien, que vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, vous êtes régénéré et l'Esprit habite en vous, ou l'Esprit repose sur vous, on pourrait dire aussi. Christ ressuscité et élevé auprès du Père a envoyé son esprit sur tous les chrétiens, sans exception. Il n'y a donc pas de chrétiens qui ont plus l'esprit que l'autre. Non, ça n'existe pas. L'esprit habite en chacun, en chaque chrétien, quel que soit son statut, quel que soit son statut social, son origine géographique, son âge, son sexe, sa maturité, etc. Si vous êtes chrétien, si vous croyez que Christ est votre Seigneur et Sauveur, vous avez reçu l'Esprit Saint. Amen ? Bon. Ça, Paul le rappelle très clairement, notamment au verset 13. Et puis, il rappelle également que chaque chrétien a reçu un ou des dons de la part de l'Esprit Saint, au verset 7. Il rappelle que non seulement chaque chrétien a reçu cela, mais que chaque don est important et qu'il ne faut en mépriser aucun. Aucun. C'est l'image des membres du corps qui sont plus ou moins importants selon nous, mais très importants chacun selon Dieu. Et enfin, pour marquer l'importance de chaque don spirituel, Paul prend l'image donc bien connue du corps, et selon cette image, tout don est donné pour le bien commun, pour l'utilité commune. Verset 7. C'est pour le bien de la communauté qu'un don est donné. Si vous avez reçu un don de la part de l'Esprit, ce n'est pas pour vous, c'est pour la communauté, c'est pour son bien, c'est pour le groupe, c'est pour le corps. Chaque don est utile pour le fonctionnement de l'ensemble. Le bras n'est donc pas plus important que le pied, par exemple, parce que les deux sont utiles au bon fonctionnement du corps. Tout doit fonctionner ensemble, de façon cohérente, coordonnée, interdépendante. Et donc, nul ne doit se considérer comme inutile dans l'Église, parce que son don serait apparemment de moindre importance qu'un autre. Et inversement, nul ne doit se glorifier de son don et donc mépriser des autres. Tous les membres fonctionnent ensemble, avec le pasteur, avec les diacres, avec les anciens, les évangélistes, les enseignants des enfants, les personnes qui s'occupent de la sono-vidéo, celles qui font le ménage, celles qui s'assurent que le chauffage fonctionne, celles qui accueillent, celles qui font que les locaux soient propres et accueillants, etc., etc., etc. Chaque don est important pour l'édification de l'ensemble du corps et pour son bon fonctionnement. Mais, avec tout ça en tête, j'aimerais maintenant rebondir sur la toute fin du chapitre 12 que j'ai lu, de la première épître de Paul aux Corinthiens, la toute fin, le dernier verset, où je me suis arrêté là. Paul dit « aspirez », ou on pourrait traduire « passionnez-vous pour aspirer aux dons les meilleurs ». Aspirer aux dons les meilleurs. Alors, il y a là un commandement quand même un petit peu étonnant de sa part, une exhortation étonnante. Déjà parce que Paul vient de dire que c'est l'Esprit Saint qui distribuait les dons souverainement sur chacun, selon donc sa volonté. Comment alors comprendre cette exhortation à l'aspiration, à aspirer à quelque chose, à la recherche passionnée de certains dons, puisque c'est l'Esprit qui donne. Et de plus, alors qu'il venait de soumettre que chaque don est important et utile à l'ensemble, Paul semble ici déclarer qu'il y aurait des dons plus importants que d'autres, ou meilleurs que d'autres. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Certains dons sont-ils vraiment meilleurs que d'autres ? Dans quel sens ? Et serions-nous en droit d'être insatisfaits, peut-être, des dons que nous avons reçus ? Si insatisfaits que nous aspirons à de meilleurs dons encore. Bref, qu'est-ce que Paul veut dire par cela ? Aspirer aux dons les meilleurs. Je pense qu'il vaut le coup de s'y attarder un petit peu parce que, bien compris, correctement compris, ce verset nous sera d'une grande aide pour comprendre justement le sens de l'engagement de chacun dans la communauté. Mais pour bien comprendre, il faut faire un petit détour dans le contexte houleux de l'église de Corinthe. Cette jeune église de Corinthe, c'est une église à problème, on va dire. Ce que nous découvrons dans cette épître, c'est qu'il y avait énormément de soucis de tout ordre, moral, ecclésial, beaucoup de disputes, beaucoup de dérives. Mais ce que l'on découvre en particulier, c'est qu'il y avait énormément de rivalités entre les membres, les frères et sœurs de l'église, avec notamment des chrétiens qui se considéraient supérieurs aux autres, comme étant plus spirituels que les autres. Et c'est d'ailleurs comme ça que Paul les appelle, hein, avec ironie. Il parle d'eux comme les spirituels. Mais il se fait un petit peu ironique, oui, hein, pas forcément moqueur, mais enfin bon. Chapitre 2, verset 15, au chapitre 3, verset 1, il les appelle les spirituels, ceux-là. Il se pensait avoir atteint un niveau supérieur de connaissance, un niveau supérieur de sagesse. Il se voyait déjà arriver, quoi, comme étant des parfaits, comme étant des super chrétiens. Et c'est déjà pas super, hein, de se considérer comme ça, mais en plus, c'est spirituel, c'est super chrétien. Qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, pour bien montrer à tout le monde ce qu'il pensait d'eux-mêmes, eh bien, il recherchait des expériences mystiques, surnaturelles, en particulier dans le culte, comme la transe ou le parler en langue qui prenait une ampleur incroyable. Et il faisait cela non pas pour se rapprocher de Dieu, et encore moins pour édifier l'Église. Il faisait cela pour impressionner les autres, pour se mettre en avant, pour dire « Regardez-moi, elle n'est pas belle ma transe ?» C'est clairement avec de telles attitudes à l'esprit que Paul écrit 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. C'est pour parler de ces gens-là, de ce qui se passe dans le culte avec des gens comme ça, des spirituels qui se mettent en avant. C'est à cause de ces attitudes que, comme on l'a vu, hein, il a rappelé que chaque don trouve sa source en l'esprit qui habite en chaque chrétien, que chaque don est utile au corps, qu'aucun ne doit être méprisé et aucun ne doit être mis en avant comme étant supérieur aux autres. Paul remet donc tout à plat, rappelant à ces spirituels qu'ils ne sont pas plus importants que les autres dans le corps. Et aux autres, il rappelle aussi qu'ils ne sont pas moins importants que ces pseudo-spirituels. Tous animés de l'Esprit Saint, doivent donc mettre en œuvre les dons reçus par l'Esprit, pour le bon fonctionnement du corps qu'est l'Église, pour l'utilité commune, et non pour sa gloire propre, non par vaine gloriole, certainement pas. Mais du coup, quand on comprend ce contexte-là de l'église de Corinthe, ce contexte complètement ahurissant, certes, mais en même temps, attention, hein, parce que des fois, on n'est pas si loin, et puis on n'est pas à l'abri. Mais quand on comprend qu'à Corinthe, c'était quand même un gros bazar, pendant les cultes, eh bien, on comprend également que Paul, en 1 Corinthiens 12, verset 31, se fait quelque peu ironique, là encore, quand il dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Oui, « aspirer aux dons les meilleurs », dit-il, mais attention, parce que ces dons les meilleurs, ce ne sont pas ceux que vous croyez. Ces dons ne sont pas ceux que vous pratiquez pour vous mettre en avant. Et non. Ces dons, ce ne sont pas ceux qui mettent en valeur votre propre personne, qui mettent en scène votre propre gloriole. Ce n'est pas ça les dons les meilleurs. Bien plutôt, ce sont ceux qui font du bien à l'ensemble du corps. Ce sont ceux qui édifient tout le corps. Et c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 14, il va faire un contraste entre le parler en langue pendant le culte, qui, s'il n'est pas traduit, eh bien, n'édifie personne, que la personne qui le prie. Et il contraste cela avec la prophétie qui, par contre, va pouvoir édifier tout le monde. Ça va être une parole reçue pour l'ensemble de la communauté qui va pouvoir faire croître, faire grandir. Mais la personne qui parle en langue, qui se met en avant, elle ne sert à rien pour le groupe, pour l'Église. Elle se sert elle-même. Donc Paul lui dit de se taire si elle n'est pas traduite. Donc aspirez, recherchez ardemment avec zèle les dons les meilleurs de l'esprit, cela n'a rien d'auto-centré. C'est pas je vais rechercher ça pour moi, bien au contraire, rechercher les dons les meilleurs, c'est vouloir servir le corps de Jésus, le corps du Christ, l'Église, la communauté. C'est avoir ce désir profond et sincère de se mettre au service, de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est chercher à affermir, chercher à encourager, chercher à construire, à édifier les frères et les sœurs que nous sommes. Pour Paul, ce que nous devons rechercher et mettre en œuvre, donc, c'est ce qui va édifier. C'est ce qui va édifier l'ensemble du corps. Ce sont donc aux dons édifiants, intelligibles, pour tous, que les chrétiens doivent aspirer. Voilà, me semble-t-il, le sens de ce verset, aspirer aux dons les meilleurs, rechercher ce qui va être utile pour chacun, pour la communauté. Mais alors, c'est intéressant, me semble-t-il, parce que peut-être vous vous souvenez, quand je le lisais tout à l'heure, juste après aspirer aux dons les meilleurs, que dit Paul ? Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je me suis arrêté là tout à l'heure. Mais c'est quoi cette voie par excellence du coup ? Merci, c'est l'amour. Eh oui, 1 Corinthiens 13. Cette voie par excellence qui peut nous permettre d'aspirer aux dons les meilleurs, de les mettre en œuvre, c'est donc qui édifie l'ensemble de l'Église, c'est l'amour. Paul le dit dans le chapitre qui suit, au chapitre 13. Ce chapitre, bien sûr, sur l'amour dont on entend parler à pratiquement tous les mariages. Mais c'est un problème, en fait, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le mariage. Ça a à voir avec des problèmes dans l'Église, dans la communauté, de gens qui sont des spirituels qui se mettent en avant. Et Paul dit, non, c'est l'amour, la voie par excellence, qui va vous permettre de mettre en œuvre des dons, les dons les meilleurs pour l'édification de la communauté. C'est l'amour. C'est dans ce contexte-là que ce passage est donné. Dans notre contexte, si Paul parle de l'amour, c'est justement parce que c'est l'amour qui doit être le moteur. Je parle pour les mécaniciens parmi nous. Voilà. Le moteur de la recherche des dons les meilleurs, comme de leur utilisation dans l'Église. Ce que Paul veut dire, c'est que si l'on désire que les dons édifient l'Église, il est nécessaire d'être animé par l'amour. Amour des frères et sœurs, amour de l'Église, amour du corps du Christ. Amour de cette communauté que nous formons. Car sinon, le risque, et c'est même une fatalité, me semble-t-il, c'est que les dons ne servent qu'à l'édification individuelle, à la gloriole personnelle de chrétiens immatures. Sans amour, les dons ne peuvent pas porter de fruits pour l'Église. Mais quand on aime, quand on est animé par l'amour du Christ lui-même, on recherche les dons les meilleurs pour la communauté. Et donc, quand on relit 1 Corinthiens 13, et je vais le faire dans un instant, quand on relit 1 Corinthiens 13 avec cela en tête, je crois que ça fait une vraie différence. Lisons ce beau passage. « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il s'est réjoui de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de sentimental là, dans le propos de Paul. L'amour, ici, c'est ce qui nourrit notre aspiration aux dons les meilleurs, à ces dons que l'on va pouvoir mettre en œuvre au service pour l'édification de l'Église. Eh bien, pour ma part, je crois vraiment que concrètement, une telle attitude d'amour ne peut qu'avoir un impact absolument énorme, non seulement sur chacun de nous individuellement, mais aussi sur la communauté. S'interroger sur l'amour, notre motivation, notre moteur, cela va avoir un impact sans aucun doute très fort sur chacun qui s'interroge sur son engagement dans la communauté. Parce que certains, peut-être parmi vous, se disent « Ok, c'est super tout ça, ça éclaire le sens de ce passage, très bien, super, merci, mais ça ne me dit pas quel est mon don ». Ça ne me dit pas là où je suis appelé, où il faudrait que je m'engage dans l'Église. Le truc, c'est que moi, je veux bien m'engager, certains se disent peut-être, mais je ne sais pas où et je ne sais pas quoi. Je sais bien que beaucoup dans les Églises se sentent démunis, qu'ils aimeraient que le Seigneur les appelle de façon claire et nette. Ils disent, toi, c'est là que je te veux. Voilà le don, voilà, c'est écrit sur ton front. Tu vas là. On aimerait bien ça. Que le Seigneur nous appelle d'une façon aussi claire à un service particulier, là où nous serons les plus utiles, là où nous pourrons utiliser notre don. Et je ne veux pas vous décourager, bien sûr. Simplement. Je me demande si on ne se trompe pas de chemin, de voie, quand on se pose la question de ses dons, quand on se pose la question de son appel comme d'un préalable à l'engagement dans la communauté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce n'est pas que la question est mauvaise de se demander quel est mon don, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que l'Esprit m'a donné comme don. Ce n'est pas mauvais de se demander où je suis appelé à servir. Non, évidemment. Mais quand on relit 1 Corinthiens 12 et 13, eh bien je me dis en fait qu'il y a des questions plus utiles à se poser que cela. Des questions qui vont prendre l'amour communautaire comme ancrage. Des questions comme est-ce que j'aime l'Église ? Est-ce que je veux la servir, l'Église ? Est-ce que je veux qu'elle soit édifiée ? Est-ce que c'est vraiment le désir de mon cœur ? Et puis, quels sont les besoins dans l'Église, concrètement ? Et est-ce que je suis prêt ou prête ? Par amour, à servir là où il y a des besoins. Vous voyez, ces questions-là, elles me semblent plus importantes encore que celles de se demander quel est mon don, quel est mon appel. Est-ce que j'aime l'Église ? Si j'aime l'Église et que je veux la servir, si je suis prêt à mettre les mains dans le cambouis pour l'édifier, alors il y a des choses qui vont se passer dans ma vie. Et en fait, quand je m'engage, c'est alors que je découvre où sont mes dons. Hein ? Ben oui, c'est comme ça que ça se passe, non ? J'aime l'Église, je désire la servir, je désire l'édifier, je désire prendre ma part dans l'œuvre du Seigneur. Je vois un besoin, alors j'y vais. Alors je sers là. Je tente de répondre à ce besoin. Et c'est en faisant cela que je vais apprendre, n'est-ce pas ? Par conviction personnelle, mais aussi parce que je vais recevoir des retours de frères et sœurs qui vont me dire « Tu fais ça bien quand même. C'est vachement bien, je suis super content. Tu sembles avoir trouvé un lieu là où tu es à ta place, où tu rends vraiment service. Tu édifies. » Vous voyez, à travers l'encouragement ou le découragement parfois, quelqu'un va me dire « Non, franchement, là, la louange, c'est pas pour toi. Bon. » Mais c'est bien, merci Seigneur. Il y avait un besoin, j'ai essayé de répondre. Bon, ce n'est pas ça. Et on discerne comme ça, communautairement, là où le Seigneur nous appelle. Si je suis bien dans ce lieu de service auquel je suis spécifiquement appelé, pour lequel l'Esprit m'a équipé. Je crois vraiment que c'est en aimant l'Église, en tout cas, et en la servant, en mettant le pied à l'étrier, en y allant, en aspirant en ce sens aux dons les meilleurs. C'est comme cela que l'on découvre ses dons. Alors voilà, frères et sœurs, je veux vous encourager vraiment ce matin, en Église, en tant que communauté chrétienne, en tant que communauté que vous formez, à faire ce choix. Je vous encourage à aimer l'Église, à l'aimer de telle sorte que vous désirerez vous y engager, vraiment. À aimer l'Église de telle sorte que vous serez prêt à la servir, là où il y a des besoins. À aimer l'Église pour prendre votre part à l'édification. Ce ne sont pas les besoins qui manquent, hein, même si je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au service déjà ici. Il y a forcément encore beaucoup de besoins. Et quoi qu'il en soit, je suis certain que le Christ est là, il est au milieu de vous, qu'il vous accompagnera, qu'il saura vous guider, vous conduire et vous donner de vous épanouir pleinement là où il vous placera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole et ton exhortation à aspirer aux dons les meilleurs. Tu vois toutes nos tendances et faiblesses. Tu vois combien l'orgueil peut se saisir de nous et nous faire aspirer à la gloire personnelle. Combien cela est non seulement rédhibitoire, mais surtout mauvais pour l'Église. Tu vois aussi combien parfois nous n'osons pas, parce que nous ne sommes pas sûrs de là où tu nous appelles, des dons que tu nous as donnés. Nous ne sommes pas sûrs, alors nous restons bloqués. Et Seigneur, ce matin, tu nous encourages à oser, à aimer, de telle sorte que nous osons servir l'Église, répondre aux besoins. Être prêt à recevoir les encouragements ou les critiques aidantes de la part de la communauté pour nous aider à discerner, oui, là où tu nous appelles. Et Seigneur, je veux te prier pour cette communauté de Nîmes ici, que tu l'encourages vraiment dans son service, que tu l'encourages dans sa vie communautaire, que tu lui donnes de continuer de rechercher ta voix, de rechercher tes pensées, de rechercher à te servir, de rechercher à rayonner de toi dans cette ville, que tu lui fasses du bien, que tu la bénisses, que tu continues de la faire croître. Je te remets chacun de ses membres, chacun des sympathisants, l'équipe de direction, que tu bénisses chacun, que tu donnes à cette Église de continuer de te servir et de rayonner, oui, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.